Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine de 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Et nous sommes mardi dans la semaine des 5 heures. Bonsoir mon cher Hugues.
Et mardi c'est country, mardi c'est Caro, mardi c'est Laurent Lacroix.
Absolument, les murs sont revêtus du plus beau tartan de notre guilde,
voilà.
La guilde Laurent Caro.
La guilde 5 heures également. Bonsoir mon cher Rudy.
Comment allons-nous bien ?
Mais ma foi, il y a encore des images qui bougent à commenter, donc tout va bien. Tout va bien dans des registres assez variés, ma foi. Donc je pense que nous allons pouvoir en discuter aimablement.
Il y en aura pour tous les goûts.
Voilà.
Et tous les dégoûts.
Voilà.
Ou pas.
Voilà. Non, c'est pas à ce point-là.
Pas à ce point-là.
Non, non.
Non. Pas de dégoûtant cette semaine.
Pas de dégoûtant cette semaine.
Chouette, chouette. Est-ce que le film, le biopic, la fiction autour de la vie d'Amy Winehouse
est... La semaine prochaine.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine. Et théoriquement, vision cette semaine, mais vision... Il y a déjà eu des visions, mais très honnêtement, pour d'un point de vue technique, il y a eu des visions sous-titrées.
J'aime mieux projection, parce que vision, ça fait tout de suite... Bernadette Soubirous,
ah oui,
ça fait la grotte, ça fait...
Il y a eu des projections. Il y a eu des projections.
Est-ce qu'il y a eu une apparition de presse?
Il y a eu des apparitions. Il y a eu des projections, mais très honnêtement, sous-titrées, et c'est le genre de film, si jamais on respecte les accents locaux, où je préférais idéalement le voir avec les sous-titres, donc j'attends une projection la semaine prochaine, mon cher Rudy. Donc ce sera pour... Parmi l'actualité des sorties de la semaine prochaine.
La semaine prochaine. Voilà. Donc il y a ballottage au niveau des avis, hein, je vous avais dit. Et puis là, la presse qui a pignon sur... Je ne dis pas qu'il y a opinion, mais qui a pignon sur rue, qui est en vitrine, tente un peu de sauver le film.
De réhabiliter le bazar.
Oui, en disant, oui, finalement, c'est bien. Enfin, c'est peut-être pas super, mais elle méritait Voilà, elle méritait bien un film. À peu près ça. Donc, vous nous direz la semaine prochaine.
Oui.
Quoi qu'il en soit, parmi l'escadron de sauvetage, il y a le lieutenant-colonel Nick Cave.
Le céramiste.
Qui est là. Oui, le céramiste qui a donc composé, on le sait, le score, enfin la musique du film, mais aussi une chanson hommage qui fait partie probablement du générique de fin, on l'imagine.
On ouvre avec ça, ou bien que Amy doit faire un playback du Nick Cave.
Oui. Il y a un truc trop bizarre.
Oui.
Quoi qu'il en soit, il ne s'est pas contenté d'écrire les instrumentaux du film, mais aussi une chanson qui rend hommage à Amy Winehouse. Puis c'est quand même le but de l'opération, et la chanson a pour titre tout simplement Song for Amy,
oui.
Et c'est Nick Cave. Eh bien, le céramiste...
J'aime assez bien ces petites cloches qui tintinabulent dans le fond. Ce côté tingly comme ça.
Tingling.
Oui.
Le céramiste a mis les petits plats dans les grands.
Oui, with the tingly orchestra. Oui, moi j'aime assez bien.
Le Tinkerbell Choir.
Oui.
Bon, Nick Cave.
Oui, c'est comme quoi tout le monde peut surprendre une fois qu'on épouse une œuvre qui est loin... de sa propre œuvre. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, absolument. Hein, il sort de sa zone de confort où il a tous ses tics habituels.
Voilà. Alors, hier, j'ai évoqué les films anglo-saxons ainsi qu'un film italien. On va évoquer les films francophones ce mardi avec un film français qui s'intitule tout simplement Rosalie. Et l'affiche est assez jolie et relativement intrigante parce qu'on voit le visage d'une jeune femme. On est dans la France rurale du 19e siècle, en 1870, et c'est le visage de l'actrice Nadia Tereskiewicz. Qui est Nadia Tereskiewicz? Eh bien, elle a été révélée d'abord par ce film qui a suscité une polémique bien malgré lui, Les Amandiers, sur la le théâtre de Patrice Chéreau à Nanterre. Elle avait été révélée par ce film-là. Polémique parce que un des acteurs a été accusé de harcèlement, et donc ça a un petit peu oblitéré le film. Mais surtout, ensuite, on l'a vu dans Mon Crime de François Ozon.
Où elle partageait
Nadia Tereskevics, où elle partagea la vedette avec cette charmante actrice de la comédie qui a fait 7 ans à la Comédie Française et dont le nom va me revenir incessamment.
Mais celle dont vous parlez, c'est La Blonde.
C'est La Blonde, absolument. Et ici donc la voix sur l'affiche de ce film, et le bas du visage est occulté, mais on devine qu'elle a du poil au menton.
Rebecca Marder,
absolument. On devine qu'elle a du poil au menton, et pour cause, Rosalie est le portrait très librement inspiré d'une certaine Clémentine Delay, qui était une femme à barbe, mais qui a osé afficher, j'aime beaucoup ce terme, son hirsutisme. Quand on est atteint de... quand on est une femme et qu'on a des problèmes de pilosité, eh bien, on est atteinte d'hirsutisme. Et donc, la réalisatrice Stéphanie Di Giusto s'est lointainement inspirée de ce destin des femmes pour parler de la difficulté et de l'éloge de la différence dans cette France donc du 19e. L'histoire, c'est quoi ?
Oui, mais alors, on est dans quoi ? Plutôt dans Elephant Man ou au contraire dans... une histoire de genre à une époque où on ne se posait aucune question. Est-ce que c'est du féminisme ? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend la tangente?
C'est à la fois, il y a non pas des emprunts, mais il y a certaines articulations du scénario qui font penser à Elephant Man, effectivement, parce que cette femme est un phénomène exhibé, utilisé. Et en même temps, il y a une dimension féministe parce que cette femme essaye de prendre son destin en main et de ne pas devoir en permanence se cacher et pouvoir vivre comme elle est. Alors, le point de départ, c'est un mariage arrangé. Le papa de cette Rosalie va la marier et donner, assorti d'une dot, à Abel, qui est un tenancier de café, qui est acculé par les dettes parce que son café ne marche pas très fort. Il est dans son café est accolé à une usine, et il a bien les ouvriers qui viennent boire un verre, mais c'est quand même pas la gloire. Mais simplement, il ne sait plus se relancer dans un métier très actif parce que Abel a été a des séquelles de son passage comme soldat, et il doit porter régulièrement un corset tellement son dos le fait souffrir. Donc cette Abel est en situation jouée par Benoît Magimel. Eh bien, cette Abel accepte ce mariage dans l'espoir de renflouer sa situation. Et évidemment, la jeune fille se présente à lui, mais elle a été soigneusement rasée par son papa. Elle est absolument charmante et tout à fait avenante. Et donc, le père de Rosalie n'a pas, en arrangeant ce mariage, ne lui a pas dit qu'il y avait un vice caché, un secret que cachait cette Rosalie. Et dans un premier temps, cette jeune fille va essayer, parce que cet hirsutisme n'est pas uniquement limité à la barbe. Elle a des poils sur le torse, des poils sur les épaules. Et donc, évidemment, comme on est à une époque où elle est très, très corsetée et qu'on ne se dénude pas tous les quarts d'heure, elle peut encore donner le change.
Faire illusion.
Donc, ouais. Voilà, donner le change pendant un petit moment. Mais il va quand même y avoir un moment où, justement, cet homme, d'autant plus qu'elle a envie de fonder une famille, elle a envie d'avoir des enfants, il y a un moment où il va falloir passer à l'acte. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe parce que Abel découvre effectivement que sa femme est poilue plus que de raison, et donc lui, qui est quelque part un ouvrier mal dégrossi, absolument pas préparé à la chose, la rejette complètement. La rejette, mais ne la répudie pas, dans le sens où il garde la dot, elle peut encore loger dans cette auberge, mais il a terriblement envie d'immédiatement faire chambre à part, alors que cette Rosalie a vraiment l'ambition de faire couple. Et petit à petit, elle prend la décision de laisser pousser sa barbe pour en fait servir dans le café. Et évidemment, l'effet de curiosité va amener tout le bon peuple, toute la populace à venir voir, et des clients. Donc, au départ, Abel ne veut pas de cet argent parce qu'il est terriblement honteux de sa femme, mais les réactions sont très divisées, et il y a justement des femmes qui sont comme cette Rosalie est absolument gentille, charmante, généreuse. Il y a beaucoup de femmes qui vont au-delà des apparences et même qui trouvent qu'elle a assez bien d'allure, avec une jolie barbe bien taillée, alors qu'à côté de ça, toute une frange du village va se moquer d'elle et va essayer au contraire de la marginaliser complètement. C'est là qu'on rejoint un peu certains ferments scénaristiques de L'homme éléphant, où il y avait un rôle d'un ouvrier d'un veilleur de nuit qui était essentiel dans le film, qui entrait par effraction dans l'hôpital le soir et qui faisait monnayer la vision de ce pauvre John Merrick au sein de l'hôpital où il était dans sa chambre. Et ici aussi, il y a un ouvrier joué par Guillaume Guix qui est mal intentionné et qui a bien l'intention de mettre le chaos dans cette situation, qui pourrait justement, avec la force de l'habitude, ne plus surprendre personne. Donc il y a ce personnage intéressant de cette femme qui essaye d'affirmer sa différence, mais avec douceur et avec une sorte de persévérance tranquille, et en même temps montrant qu'elle peut être une bonne épouse, quoi. Et je trouve que d'abord c'est très très le couple formé par cette Nadia Tereskiewicz et Benoît Magimel est un joli couple de cinéma. Dieu sait que Magimel, bon, on l'a vu à tort et à travers, on sait bien qu'en France on le met sur un piédestal, on trouve que c'est le meilleur acteur du monde, il a eu 2 Césars de suite. Moi, je trouve que Magimel peut être très très inégal, mais ici, dans le rôle de ce cafetier qui souffre et qui n'est pas du tout préparé à la différence et à ce qu'on vienne justement chez lui pour observer cette femme comme une bête curieuse, il est franchement bien. Et cette jeune actrice Nadia Tereskiewicz vraiment arrive à donner énormément de douceur et de féminité et de charme à ce personnage. Il faut aussi dire que c'est réalisé par une femme qui a, je trouve, un talent esthétique certain. Stéphanie Giusto, elle avait déjà été remarquée par un film qui s'appelait La Danseuse en 2016, où Lily Rose Depp incarnait Isadora Duncan et Soko incarnait une danseuse atypique.
On en a parlé ici, je m'en souviens.
Qui s'appelait Loi Fuller et qui faisait des danses absolument hallucinantes en ayant des bâtons au bout des bras et faisait des danses comme presque de papillons géants.
Oui, qu'on retrouve dans les concerts de Taylor Swift.
Voilà, c'était... Ah oui,
exactement les mêmes.
Et donc c'était très, très, très esthétiquement très beau. Je trouve que La Danseuse, il y avait un problème de scénario, c'est que ça se répétait très fort. Ici aussi, le film aurait gagné à être un petit peu resserré, mais néanmoins il y a rien à faire pour qu'est-ce qui fait que certains réalisateurs ou réalisatrices ont un sens de l'image et du climat. Je trouve qu'il y a énormément de charme dans cette reconstitution d'époque, qui n'est pas du tout une reconstitution plandureuse. Hein. C'est un film à budget modeste, et la réalisatrice m'expliquait que le petit village d'ouvriers qu'elle a pu trouver dans la France profonde, elle l'a laissé dans son jus. C'est presque une découverte miraculeuse d'avoir trouvé tous les décors. Et donc, on n'est pas devant une espèce de reconstitution un peu laborieuse. Non, franchement, il y a des qualités. Et c'est marrant parce que la semaine passée, on évoquait Benjamin Biolay dans le film avec Camille Cotin, quelques jours pas plus, où il joue un rôle on ne peut plus contemporain. Et là, il joue le patron de l'usine qui n'a aucune raison, évidemment. Là, il peut rejouer des rôles parfaitement froids et antipathiques, puisque ce patron d'usine n'a aucune envie de voir une femme qui peut être considérée comme une trouble faite dans le calme du village. Voilà, donc c'est un film, je trouve, qui a assez bien, pas mal de qualité, et je pense que ça va faire monter en puissance je dis pas la cote, mais en tout cas les potentialités de Nadia Tereskiewicz. Donc c'est Rosalie de Stéphanie Di Giusto, et on donnait la semaine passée des permis de séjour. cette semaine-ci avec Civil War, on donne des laissés-passer. Oh, eh bien, c'est dingue, hein. Deux laissés-passer pour ce Rosalie, mon cher Rudy. Voilà.
Et la semaine prochaine,
des cartes vertes.
Ou des cartes d'or.
Oui, ça fait trop penser.
À la glace.
À la glace, oui. Donc voilà, deux laissés-passer pour ce Rosalie de Stéphanie Digusto.
Bien. Oui, vous savez, cette danse de Loïc Fuller qu'on appelle la Serpentine Dance.
Ah oui.
Serpentine Dance. En fait, c'est une vraie danse qui fait partie de la culture lesbienne. Et donc, quand Taylor Swift est arrivée avec ça sur scène, on a dit, ouais, c'est clin d'œil clairement appuyé à la communauté, un petit coucou comme ça. Aussi, l'échelle qui grimpe dans les nuages, c'est aussi une évocation de la culture lesbienne.
Par contre, film qui avait permis à Soko à ce moment-là, on va dire.
Oui.
Mais elle n'a pas transformé l'essai au cinéma, parce que le film, je vérifiais, la danseuse, ça date quand même de 2016. Ouais. Donc voilà. Et donc, heureusement pour Stéphanie Digusto, elle a pu tourner un nouveau film qui est ce Rosalie. Voilà pour le premier film français de cette semaine.
Côté musique, direction à la fois Scandinavie et Australie, vous allez comprendre. Alors, on l'a entendu récemment, il y a des chanteurs, des chanteuses qui rendent hommage à des acteurs. Hein, Charlotte Cardin récemment a chanté Jim Carrey. On a eu aussi, il y a quelque temps, le groupe Foxys qui a chanté Timothée Chalamet. Vos amis les Bananarama ont chanté Robert De Niro.
Oui.
Même le Dalai, il a chanté Ava Gardner. Oui. Ou Gorillaz a chanté Clint Eastwood.
Oui.
Et donc, les filles, les jumelles du chanteur de The Church.
Et puis, Sprout a chanté Steve McQueen.
A chanté Steve McQueen. Voilà, exactement. Mais ici, on va passer à un degré, je dirais, supérieur, puisque les filles de Steve Kilby, le chanteur de The Church, australien, mais la maman est scandinave, les jumelles Electra Miranda Kilby, qui ont ce duo C'est Loulou qu'on entend de temps en temps, viennent de publier une nouvelle chanson. Alors là, je vous le donne en mille, ça rend hommage à une personnalité du cinéma, mais on est parti alors sur un autre niveau, c'est du top high level. La chanson s'appelle Wong Kar Wai.
Ah ouais.
Ah ouais. Donc on n'est pas sur hommage à Timothée Chalamet ou à Jim Carrey. On est sur du Wong Kar Wai. Uh-huh. Donc c'est la chanson du duo C'est Loulou. Wong Kar Wai,
oui.
C'est la chanson.
Et rien à voir avec la musique de In the Mood for Love
rien
de Wong Kar Wai. On n'est pas du
tout.
Donc voilà, c'est une grande déclaration d'amour pour Wong Kar Wai.
Les jumelles de C'est Loulou. Donc on pourrait imaginer, je ne sais pas, Saul qui chante Frère d'Ardenne.
Ah oui.
Ou Musti qui chante Bouli.
Oui, mais Musti doit d'abord passer l'Eurovision.
Oui.
Avec Bouli, ça va pas. Ça n'aurait pas été fort. Tant qu'à parler des ponts, j'ai oublié de vous dire, vous me demandiez par rapport à Rosalie, tiens, est-ce que c'est Elephant Man? Il y a un emprunt, mais totalement involontaire. Il y a un moment, il y a une scène onirique, et c'est un morceau classique absolument déchirant, qui est l'adagio de Samuel Barber. Je dis, mais c'est la musique de finale de l'homme éléphant. Et la réalisatrice ne s'en était pas rendue compte. C'est sa monteuse qui lui a dit, tu sais que c'est... Mais comme c'est un morceau classique passé dans le répertoire, il n'y avait pas de problème. Et elle a assumé le fait qu'elle a dit, bon, j'ai trop pensé à cette musique. Je ne me souvenais plus que ça avait été utilisé dans l'homme éléphant. Mais donc, quelque part, il y a un pont supplémentaire entre Rosalie et Elephant Man. On ne quitte pas le domaine féminin et le domaine film d'époque avec un film. Le titre initial, c'était La Nouvelle Femme. C'est premier film de fiction d'une documentariste qui s'appelle Léa Todorov. Et chez nous, ça sort sous le titre probablement plus explicite de Maria Montessori, à savoir. L'initiatrice, la doctoresse italienne qui a été à la base de la méthode d'enseignement, la méthode Montessori, mais qui est encore en vigueur.
Pédagogie
aujourd'hui.
Active.
Voilà, pédagogie active. Et l'idée de la réalisatrice et de mêler quelque part fiction et réalité. Le personnage de Maria Montessori, joué par une actrice italienne qu'on a vu dans énormément de films italiens actuels, qui s'appelle Jasmine Trinca. On voit que cette femme, en même temps, va initier des méthodes de d'apprentissage différentes pour des enfants à l'époque qu'on estime insauvables, hein, des enfants qu'on considère comme déficients, incapables de s'adapter aux méthodes traditionnelles.
Enseignement spécialisé.
Voilà. Et donc, ben, à l'époque, on est en 1900, quelque part, ce sont des laissés pour compte. Et justement, cette femme va tenter par de nouvelles approches de les sociabiliser, de leur permettre d'avancer malgré tout sur un plan scolaire. Et le drame de cette femme, c'est que, et là il y a une sorte de point de vue aussi féministe dans l'approche de la réalisatrice, c'est que cette femme travaille avec son compagnon qui est également médecin, mais il refuse obstinément de se marier parce que elle deviendrait alors du jour au lendemain Madame Machin et serait quelque part juste l'assistante de son mari, mais n'aurait absolument plus la marge de manœuvre et la liberté intellectuelle pour avancer dans ses recherches comme elle le désire. Et ce faisant, elle se sacrifie parce qu'elle a un enfant qui est né donc hors mariage, et cet enfant, justement né hors mariage, pourrait créer un scandale, et elle est condamnée à le laisser chez des parents de substitution à la campagne et lui rendre visite de temps en temps. Donc on a cette femme qui est déchirée entre le fait qu'elle s'occupe énormément d'enfants, qu'elle est entourée d'enfants et qu'elle s'occupe des enfants des autres, mais quelque part elle a une culpabilité parce qu'elle a le sentiment qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle ne s'occupe pas de son propre enfant, mais pour des raisons, une fois encore, de ne pas effaroucher la bonne société. Alors ça, c'est pour le portrait de cette femme, mais la réalisatrice a eu l'idée d'imaginer en plus une rencontre entre deux femmes avec une courtisane parisienne qui dans le film s'appelle Lily Dallangy et qui elle-même a une fille née de ses innombrables conquêtes. Mais cette fille, justement, a des déficiences et cette femme, cette courtisane parisienne ne voit absolument pas comment s'en occuper et donc veut quelque part laisser la responsabilité de son éducation et même la responsabilité tout court à Maria Montessori et son équipe. Et donc ces deux femmes vont, tous les deux sont des mères célibataires, des mères un peu honteuses, et vont dialoguer et tenter d'avancer ensemble. Ce personnage de Lily Dallangy m'est apparu comme un peu artificiel pour essayer de cristalliser à travers ce personnage toute une autre éducation et toute une autre façon de voir à l'époque. Qui plus est, elle est jouée par Léla Becti, qui est une formidable actrice qu'on a encore vue dans les Intranquilles de Joachim Lafosse, qui est vraiment une actrice très très souvent convaincante. Mais avoir Léla Becti dans le rôle d'une courtisane, femme du monde parisienne dans le Paris 1900, ne m'a pas paru très 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 convaincant et très très crédible. Et elle ne joue pas non plus la même partition que l'actrice italienne. C'est la difficulté du film aussi, c'est d'aller balloter entre les deux langues, entre des scènes en français, des scènes en italien, avec un tournage en partie en France, un tournage en partie en Italie, alors que aujourd'hui les méthodes diffèrent complètement. Je pense que la pauvre réalisatrice s'est embarquée à travers ce scénario de rencontre de deux femmes dans quelque chose de très 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 compliqué à gérer, et je trouve que le résultat est un petit peu laborieux, c'est-à-dire que une fois qu'elle a placé ce qu'elle voulait dire, on sent que les deux personnages sont là pour illustrer un petit peu de mentalité de l'époque, une mentalité progressiste, une mentalité plus attachée aux traditions, et on est un peu dans un film illustratif, comme ça, illustratif de, on sent trop les intentions et les personnages qui sont là pour bien personnaliser les intentions de la cinéaste. Donc, je trouve que c'est un film un petit peu, bon, évidemment instructif, hein, mais un petit peu scolaire, un petit peu académique.
Est-ce qu'il y avait matière à faire un film? Est-ce que, au départ, l'intention n'est pas juste trop ambitieuse par rapport à la matière à traiter?
Mais je ne sais pas, moi j'ai pensé évidemment...
Enfin, vous allez me dire, on a bien eu Flaming Hot, un film sur le mec qui a inventé les chips piquantes.
Non, j'ai surtout pensé, dans le registre pédagogique, y avait un film qui est un classique du cinéma américain, qui était l'éducation de Helen Keller, une petite fille qui était sourde, muette, et qui a finalement été absolument lumineuse et qui a été une personnalité intellectuelle de l'Amérique. Et le biopic d'Helen Keller, ça s'appelait Miracle Worker, Miracle en Alabama. C'est un film d'Arthur Penn. C'est absolument magnifique. Je pense qu'il y a toujours matière si on parvient à trouver une vraie écriture et ne pas rester coller le nez à sa feuille, à la feuille de son sujet. Et je pense qu'il y a un moment où il faut trouver une sorte de souffle cinématographique qui permette d'aller de faire un film qui reste moins dans le côté didactique, et osons le dire, un peu scolaire. Donc c'est pas tout à fait négligeable, mais c'est pas non plus tout à fait passionnant. Donc je donnerais un laisser passé pour ce Maria Montessori.
Parce que toutes les histoires de l'oncle Paul ne sont pas adaptées à l'écran.
Non, et les histoires de l'oncle Paul, souvent, ça tenait en quatre pages.
Voilà.
Parfois, c'était fort condensé. Hein, quand le type avait vécu 95 ans, il fallait... Voilà. Ça va pour rien que le Don Bosco prenait quand même 150 pages. Hein, et qui a suscité d'ailleurs beaucoup de vocations à l'époque.
Donc, Madame Montessori.
Maria Montessori, c'est également un destin de femme, donc à l'écran cette semaine.
Est-ce qu'on parle du prix du Minerval dans le film? Non, j'imagine que non.
Pas encore, donc.
Donc un film qui ne va pas jusqu'au bout.
Non, qui aurait pu faire passé et présent les intentions de Maria Montessori et ce que c'est devenu aujourd'hui, par exemple.
C'est un peu comme Spotify.
Mais c'est un autre film.
Je dépose ça là et tout le monde réfléchit. C'est quoi le rapport entre Maria Montessori et Daniel Ek et Spotify? On ramasse les copies.
Les intentions et le résultat.
Ah oui, on ramasse les copies la semaine prochaine. Oui,
on a commencé par Facebook aussi, qui devait être un truc... sans publicité, gratuit, non commercial.
Avec uniquement des gens pleins de bonnes intentions.
voilà, il y a déjà eu un film.
Au départ, c'était « We are the world » hein, Facebook.
Oui.
Bien.
Ah là 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 là.
Écoutez, je voulais vous proposer un morceau de pomme.
Ah.
Ah oui, parce que la semaine passée, j'ai cru comprendre que vous étiez pommophile.
Je suis pommophile.
Assez pommophile.
Je suis pommophile, oui.
Donc, l'actualité de pomme, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité.
Vous n'allez pas vous acharner.
Non, mais pas du tout. C'est juste par souci d'information et d'exhaustivité.
Oui.
Voilà, donc,
elle reprend
du tout,
qui cette fois-ci?
Elle reprend rien, justement. Elle se reprend elle-même.
Ah.
Donc, je ne sais pas si vous avez suivi son actualité.
Non.
Mais son actualité est sous forme de...
Qu'est-ce qu'elle fait, Claire Pommet?
D'imagier, de...
Ah, les saisons.
Les saisons.
Les saisons.
Donc un album a été complété il y a quelques semaines. Il s'appelle Les saisons. Pourquoi complété? Parce que...
Elle a rien fait que copier Michel Fuga.
Qui avait fait Printemps, bien sûr, évidemment, j'étais là. Nous étions à la manœuvre. Le printemps, il y a la rive,
il avait fait,
saison.
Il avait fait trois morceaux, je crois.
Et ben pareil. Et ben si ça se trouve, c'est copié sur Mich-Mich. Voilà. Donc l'album Saison, dont on a eu Automne-hiver paru en décembre dernier et Printemps-été sorti il y a quelques semaines.
Ça va par deux saisons chaque fois.
Elle
fait le prix de gros.
Mais donc pour le coup, maintenant que les quatre saisons sont là, tout est réuni sur un seul disque. Chaque saison reçoit trois chansons, donc on est sur une collection de 12 chansons, 12 mois dans l'année, donc on est sur une sorte de calendrier musical.
Mmh. Voilà. D'almanach.
Donc c'est une sorte de...
On a été bêtes
entre
quand même.
Michel Fugain et nous.
On
quoi.
A été
voilà.
Si bêtes, oui, mais on a été si bêtes avec notre almanach de le dater 2023.
Mais on aurait pu faire un truc perpétuel.
Mais oui, on ne change quand même pas. Ouais, on est quand même vieux et blanchi. Donc,
si on avait été éduqué à la méthode Montessori, on aurait sûrement réfléchi à ça bien avant.
Évidemment.
Mais oui, évidemment. Donc, puisqu'on est en avril.
Ça veut dire encore des gens qui viennent le faire dédicacer en 2024, comme quoi. Tout est possible.
Mais tout est possible.
Donc, Claire Pommet, alias Pomme, c'est daté. C'est un saisonnier 2023. C'est maintenant, 2024.
Ben non, c'est perpétuel.
C'est perpétuel.
Oui, il y a chaque année, il y a quatre saisons. Oui, oui. Donc, ce n'est pas limité à.
Mais il n'y a pas d'allusion à l'actualité de l'époque, ni
vous
rien.
Vous croyez vraiment que j'ai écouté les 12 chansons?
Attendez. Là, il se dévoile. Laurent Lacroix, là, il se dévoile.
Attendez, serviable. Oui. Je veux bien. Je vous annonce le truc. On va écouter un morceau de pomme. J'ai cru comprendre que vous étiez assez pommophile. En compote, en tarte, à croquer, pomme.
Avec des morceaux.
Oui, avec des morceaux, sans morceaux, mousseline. Oui. Donc, je suis allé voir le morceau du mois d'avril, puisqu'on est en avril.
D'accord.
Voilà. Et ce morceau du mois d'avril a pour nom Le temps des fleurs.
Ah.
Et c'est donc Pomme en fleurs.
Ça me fait un peu penser.
Non,
à...
Vous devez laisser un silence après ça, comme sur Musique 3.
Ça me fait un peu penser quand William Scheller avait pris un peu trop d'eau de feu et qu'il avait fait l'album Univers avec des partie orchestrale. Ceci a fait un petit côté l'orchestre à la portée des enfants, qu'on s'attend à voir un narrateur qui va
Piccolo
nous raconter.
Saxo, Pomme et compagnie.
Oui, oui, ouais. En quelque sorte. Vous êtes d'une perversité démoniaque.
C'est exact.
Démoniaque, parce que.
Je me suis dit.
Vous avez dit.
De toute façon.
Vous qui êtes pommophile.
Oui.
Là, tiens.
Je me suis dit.
Là, tiens. Je vais aller lui mettre un truc, mais vraiment.
Écoutez, ça fait quand même.
J'en ai écouté qu'un, mais. C'est le bon.
Bah, c'est celui du mois d'avril. C'est celui d'aujourd'hui. Je me suis dit. Je vous connais depuis une paire d'années. Ça ne sert à rien de vous convaincre et de commencer à discuter. Je n'ai pas envie de discuter.
Il faut apporter des preuves.
Ouais. On va écouter pas. Parce que vous êtes resté sur sa reprise de Mylène Farmer et vous êtes tous...
Désenchantée, oui, qui est bouleversante.
On n'a jamais
diffusé ici d'ailleurs.
Oui, mais c'est comme les gens qui sont restés sur Get Out de Jordan Peele,
oui.
Mais qui n'ont pas vu Us, qui n'ont pas vu Nope.
Qui sont toujours avec le sixième sens de Night Shyamalan.
Voilà.
Et qui n'ont pas vu les derniers. Oui,
voilà.
Eh oui, on ne peut pas tout connaître, mais grâce à vous, heureusement, je deviens plus pomologue.
Pomologue.
Je deviens pomologue.
Oui. Attention de ne pas devenir pomophobe.
Non.
Attention.
Je me contenterai d'être pomologue.
La suite.
Oui, eh bien, il y a un film belge qui sort... On ne peut plus discrètement, et pour cause...
Pas dès le moment où vous allez en parler.
Oui, mais justement, j'ai envie d'en parler parce que parfois, il y a des injustices comme ça. Il y a des films, franchement, qui sont pas très, très, très intéressants, mais qui jouissent d'une bonne distribution, avec un distributeur qui y croit.
Et d'une
qui
bonne
croit,
promotion.
Voilà, et qui
vous pensez
croit.
À un film récemment sorti, la semaine dernière.
Ça arrive souvent. Et puis à côté de ça, il y a des films belges qui sortent beaucoup plus discrètement parce que les distributeurs n'ont pas été convaincus. Et pourtant, il y a des films comme ça qui parviennent à passer entre les mailles du système. Et heureusement, ils sortent en salle. Je veux parler d'un film cette semaine qui s'appelle Les Pas Perdus, au pluriel. Il sort pour l'instant dans une salle bruxelloise et il va... SME dans différentes salles de Wallonie au fur et à mesure. Et si j'en parle, c'est parce qu'il aborde les pas perdus, la salle des pas perdus, c'est le palais de justice, quoi. C'est en règle générale, c'est l'espèce de carrefour où les gens se retrouvent. Là, on se retrouve à la salle des pas perdus. Et le film, qui est assez bref, trop bref d'ailleurs, et je me suis demandé pourquoi il était si bref, j'ai compris aussi que quand il a bénéficié de peu de subsides et qu'il a été tourné à l'arrache en quelques jours... À l'arrache.
L'arrache.
Il est signé par Rhoda Fawaz et Thibaut Wolfhart. Et ça parle de quoi? Eh bien, c'est un chassé-croisé de plusieurs personnes qui se retrouvent le même jour dans un palais de justice. Palais de justice hyper moderne. Apparemment, ça a été tourné dans le palais de justice d'Anvers. Et on va croiser à la fois un avocat. Un avocat qui est sur la sellette et qui est menacé dans les réseaux sociaux parce qu'il a choisi de défendre un criminel qui a commis un assassinat contre des musulmans en Belgique. Donc l'affaire fait grand bruit et cet avocat est joué par le toujours excellent Laurent Capelluto. Mais on va suivre aussi un vieux couple dont la femme veut divorcer et visiblement son vieux mari qui l'a toujours dominé ne l'entend pas de cette oreille et refuse le divorce. On va suivre des agents de police qui sont chargés de protéger l'avocat menacé, et parmi ces agents de police il y a un avocat d'origine, un policier d'origine maghrébine, et qui ne comprend pas du tout la position de l'avocat et sa position qu'il considère comme islamophobe. On suit aussi le destin d'un autre type chargé du service d'ordre qui est incarné par l'excellent Wim Willard, mais qui est complètement dépassé par les événements parce que son père, on devine au téléphone dans une scène très forte que son père est atteint d'Alzheimer, est en train de vagabonder et il ne peut absolument pas quitter le palais et doit essayer à distance de régler les problèmes. Voilà, c'est une mosaïque de situations. On est presque dans la logique de shortcuts de Altman, c'est-à-dire que ce sont des instantanés comme ça de destin qui se retrouvent dans le même endroit avec en toile de fond l'idée, pas à quoi ça sert un palais de justice, mais que peut-on en attendre ? Est-ce qu'il y a toujours la question, la vérité judiciaire s'approche-t-elle de près ou de loin avec la vérité ? Est-ce que on peut ressortir satisfait du palais de justice ? Est-ce qu'on n'en arrive pas toujours plein d'attentes ou plein de stress ? Je faisais référence à ce couple, ce vieux couple qui tente de trouver un terrain d'entente pour divorcer. Alors évidemment, comme il y a un procès très très médiatisé avec cet avocat qui est menacé de mort, il y a aussi un colis suspect, donc on va peut-être devoir faire évacuer tout le monde. Et je trouve que tous les problèmes sont très très bien posés en très peu de temps. Mais parfois, ne pas avoir d'argent pour faire un film, ça oblige à aller à l'essentiel. Et ici, les deux réalisateurs, Roda Fawaz et Thibaut Wolfhard, ont visiblement resserré les situations. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est une thématique, c'est une démarche presque comme striptease, un truc comme ça, c'est un ni juge ni soumise. Non, parce que c'est clairement de la fiction, c'est clairement rejoué par des acteurs, et donc il y a absolument aucun laisser-aller, aucune graisse inutile dans l'écriture de ce film Le Pas Perdu. Chaque scène, parfois elle peut apparaître comme anecdotique, mais finalement dit quelque chose sur le mystère, le côté un peu intimidant, voilà, pas majestueux, mais le côté intimidant d'un palais de justice, et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc voilà, a priori, je disais, donc petite production
oui,
modeste.
Et il y a 50 ans, on disait, 1974, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées.
Oui, voilà. C'est vrai,
c'est ça,
ça date de la crise pétrolière, c'était un slogan publicitaire même. Et toujours est-il que, voilà, je trouve que ce film peu frustré parce qu'on a envie d'en savoir plus de ces personnages.
C'est tourné où ?
Palais de justice d'Anvers. Ce n'est pas mentionné comme tel. J'ai regardé dans le générique de fin. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on s'intéresse à la concierge des lieux qui est jouée par une grande actrice de théâtre qui est Véronique Dumont, qui est déjà avec des seaux parce que pour éponger les fuites, parce que le palais vient à peine d'ouvrir, mais comme il y a des verrières partout, il y a déjà un côté défectueux. Il y a aussi la symbolique de montrer qu'il y a des fuites et que ça part dans toutes les directions. Voilà. Donc, une fois encore, j'en parle, mais c'est la sixième sortie dont je parle cette semaine-ci, et j'en parle en dernier lieu. Non pas parce que c'est un petit film, simplement parce que sa sortie est limitée. Au départ, il sort à Bruxelles et il va, croisons les doigts, enfin, il s'est déjà prévu, mais faire un circuit de salles en
Wallonie. Des rebonds dans les semaines qui viennent.
Un circuit de salles en Wallonie avec, c'est le prototype de film. Non pas, ce n'est pas un film qui nécessite un débat, mais c'est un film qui peut permettre un débat, justement, sur, voilà, à quoi ça ressemble, finalement, la justice aujourd'hui. On parle des prisons surengorgées, on parle de tous les problèmes, on parle du fait que la justice n'est jamais un enjeu électoral parce que forcément c'est pas les prisonniers qui votent en premier lieu. Voilà, quelque part en filigrane, le film permet de manière assez modeste et assez humble de discuter de tout ça. Donc ça s'appelle Les Pas Perdus, avec plein d'acteurs belges, dont une fois encore l'excellent Laurent Capelluto ou encore Véronique Dumont. Les Pas Perdus de Roda Fawaz et Thibaut Wolfhart. Et je donnerais volontiers deux laissez-passer pour ce film belge.
Eh bien, volontiers.
Voilà.
Oui. Donc je tiens à préciser que quand on dit ça se passe à l'Arrache, l'Arrache est un port au Maroc.
Voilà.
Et c'est aussi une poissonnerie à Anvers. La poissonnerie L'Arrache.
Ah oui.
Oui. Si on allait chercher du poisson à l'Arrache.
C'est chouette.
Bah, c'est important.
Oui.
Bah, c'est important.
Ouais. Bon, on arrive. C'est comme le temps file.
Alors le temps passé à une vitesse supersonique.
Entre pomophile, pomologue et pomophobe.
Ouais. Entre Montessori, le prix du Minerval, faut-il en faire une histoire de l'oncle Paul ou un long métrage.
Est-ce que la femme à barbe portait dans ce film un postiche ou des vrais poils de barbe? Eh bien, vous allez voir que c'est fort bien fait. Hein. C'est poil à poil. Hein.
Ouais.
Vous imaginez la maquilleuse qui est poil après poil. Mettre des heures. Mais en attendant, c'est bien fait.
Bon. C'est bien fait.
Ah ouais, ouais. Très très bien fait.
J'aurais peut-être un retour sur poil cette semaine, avec le même type de maladie, mais sur un petit garçon.
L'hirsutisme.
Non, ça porte un...
Ça porte un autre nom.
C'est sur les femmes, mais sur...
Les enfants, c'est autre chose.
Sur les enfants, ou en tout cas sur... l'excès de poil qui est a priori normal chez un mâle, ça porte un autre nom, hirsutisme chez la femme et chez l'homme. Je vais essayer de vous trouver ça. Ça s'appelle de l'hypertrichose.
Ah, de l'hypertrichose. Voilà. Très bien. On en apprend des choses dans la semaine des 5 heures. Vous partez plus avant, hein, Laurent Lacroix.
Une fois de plus.
Hein
voilà, on a le poil plus intelligent.
Ah ouais.
On a le poil lustré.
Ah ouais.
Vous vous souvenez du groupe Fischer Z?
Ah oui.
Ah oui.
The Walker.
The Walker. So long.
The Walker. Oui,
1979, c'était les rois du macadam. C'était des superstars.
Ils avaient un très bon logo aussi, très identifiable.
Un F et un Z qui étaient dans des typos très très particulières, entre la note de musique et la lettre d'alphabet. Voilà, donc ça c'était en 1979 où ils partageaient l'affiche avec Dire Straits, avec Peter Gabriel, c'était vraiment...
Super trendy.
Oui, c'est 2 millions d'albums, c'était énorme.
Voilà,
mais du temps a passé. Le temps a passé et le temps a passé pour nous, mais aussi pour eux.
Pour eux.
Aussi pour eux. Oui. Mais ils reviennent.
Ah.
Ils reviennent avec un nouveau disque qui sortira le 26 avril, donc la semaine prochaine. Un grand disque. Alors, il y aura des dates. Alors, ne cherchez pas le Lotto Arena, le Sport Palace.
Il faut aller au Café de Bruges, là.
Oui, ils jouent juste à côté de la poissonnerie L'Arrache à Anvers. Oui, c'est vraiment dans des petits lieux, mais c'est pas pour ça. C'est comme votre film, hein. Votre film Fauché.
Voilà.
Vous dites, c'est pas pour ça que c'est un petit film.
Exactement.
C'est petit, moyen, mais grand film.
Voilà.
Donc, si c'est petit retour, mais peut-être grande chanson.
Peut-être grand concert.
Et peut-être grand concert et grande communication, grande intimité avec public. Public avec masse corporelle quand même imposante. Si c'est le public de l'époque.
Comment s'appelait le gars encore de Fischer Z?
John Watts.
John Watts.
John Watts.
Oui.
Et donc leur nouvelle chanson avec laquelle on se quitte s'appelle The Hamburg Beat. Et c'est Fischer Z, comme les spécialistes disaient. T'as entendu nouveau Fischer Z? Alors, ils disaient, Fischer Z. Donc, Fischer Z, à demain.
Ouais.
Merci.
There were brothers singing covers on the dark side of the moon.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.